Dude Joseph débarque à Alain Fournier.
Avec les 609.
Bonjour à toutes et à tous. Donc avec la classe de première S 609 du lycée Alain Fournier de Bourges, nous allons vous présenter Oradour, un drame pour l'histoire. Encadré par Monsieur Marron, notre professeur de français, et aidé techniquement et à la rédaction par Alice Defresne, qui fait partie de l'Office central de la coopération à l'école.
Alors en premier lieu, nous allons voir comment sont arrivés le groupe qui a permis ce massacre à Oradour, la 2e division blindée SS d'Astreich. Alors en avril 1944, après avoir subi de lourdes pertes sur le front de l'Est, notamment lors de la 4e bataille de Kharkov, la 2e division blindée SS d'Astreich, sous le commandement du Gruppenführer Heinz Lammerding, est mise au repos dans la région de Autobahn pour être reconstruite. Début mai, elle comporte 1468 hommes. Début juin, plusieurs de ses composants ne sont toujours pas opérationnels et la situation du matériel roulant, de l'armement lourd et des blindés est encore défaillante. À son arrivée en France, la Dasreich possède les caractéristiques communes aux unités responsables du massacre sur le front. Ses membres sont imprégnés par l'idéologie nationale socialiste. Elle a combattu sur le front de l'Est. Se perçoit comme une unité militaire d'élite et a déjà participé à des opérations de lutte contre les partisans. En mai et début juin 1944, des unités de la Dasreich terrorisent la population des départements du Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne et Ariège. Au cours de leurs opérations, ils fusillent au département des résistants et des otages, assassinent de nombreux civils, hommes, femmes et enfants, et incendient des habitations voire des villages entiers, comme celui de Theroux, Tulle, Fouché ou Oradour. Le lendemain du débarquement, 7 juin 1944, la Dasreich reçoit deux ordres contradictoires du commandement suprême de l'Ouest. Le premier lui donne instruction de rejoindre la Normandie, le second d'intervenir contre la résistance dans la zone de Tulle et Limoges. Et cette ambiguïté est levée par deux ordres, reçus le 8 et 9 juin, qui précise l'essentiel de la division doit être retiré des engagements en cours avant le 11 juin à midi, pour rejoindre le front de Normandie. Au cours de la progression vers Tulle, des éléments de la division sont confrontés au renforcement des actions des résistants. De nombreux partisans sont tués lors des combats ou sommairement exécutés. Des civils sont également assassinés par le bataillon commandé par Dieckmann. Les unités qui n'ont pas fait mouvement vers Limoges mènent des opérations de répression contre la résistance et commettent des exécutions en public contre la population civile entre le 10 juin et le 16 juillet 1944.
À présent, nous allons voir le texte mot de Vercors, paru en 1944. Donc Jean-Marcel Adolphe Brûleur, de son vrai nom, est un romancier, illustrateur et dramaturge né le 26 février 1902 à Paris, où il passa la plupart de sa vie. Son nom vient du massif montagneux, donc le Vercors, où il a fait partie de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est notamment un pacifiste qui s'est engagé contre la guerre d'Algérie. Le texte Les mots vient de la collection Les belles oubliées et raconte l'histoire d'un poète, Luc, qui assiste au massacre du point de vue d'une colline alors qu'un officier allemand peint la scène. Donc je vais à présent vous lire le texte. Le peintre s'était éloigné de quelques pas et considérait son œuvre. Il secoua un peu la tête, émit un murmure incertain, un murmure de doute ou d'effort. Il revint et gratta une part de la toile. Le ton qui s'y trouvait, entre le grenat et le prune, fut couvert par un autre, dont un œil peu exercé n'eut pas su percevoir la dissemblance. L'officier le regarda longtemps, puis parut satisfait et repartit à peindre avec une nouvelle ardeur. Au village, les coups de feu, enfin, avaient cessé. Quelques-uns éclataient encore ici et là. Mais non, les cris des femmes. D'autres cris bientôt s'y mêlèrent, ceux-là mâles et gutturaux. Luc aperçut un mouvement étrange, une sorte de grouillement entre les murs du petit cimetière contre l'église. Il vit qu'on y poussait les femmes, qu'on les y entassait avec leurs enfants. Les cris, les pleurs, les hurlements d'effroi lui parvenaient à travers l'air limpide. L'officier, dans un élan subit, passant brusquement d'un bord à l'autre de sa toile, plaça contre un vert sombre la touche imprévue d'un jaune éclatant. Il ne put retenir un menu cri de joie et lentement écrasa la couleur sous son pouce. Là-bas, de petites silhouettes en vert de gris jetées par-dessus les murs, sur les femmes entassées, des fagots et des bûches. Et d'un seul jet, le feu courut, enfumant tout le cimetière. Les cris devinrent parfaitement inhumains, mais ils furent couverts par les rafales des armes automatiques. Tout cela, dans le lointain, ne faisait guère plus de bruit qu'un poulailler sous la grêle. Pourtant, Luc s'évanouit. Le bourg désormais tout entier brûlé, l'officier, les yeux brillants et fixes, cherchait sur sa palette le ton rare d'un céladon tendre. Je vais maintenant vous laisser avec Enzo pour l'analyse.
Donc, on voit que dans ce texte, il y a la présence de deux champs lexicaux principaux, celui de la peinture et celui de la guerre. Donc, à travers ces deux champs lexicaux, il y a deux idées opposées qui sont véhiculées, celle de l'art et celle de la violence. Donc, l'art qui fait référence à la paix, la liberté, les émotions et même l'intellect, fait donc opposition à la violence qui est née de la bêtise de l'homme et qui fait aussi une référence à l'emprisonnement. Dans ce texte, il y a aussi un travail sur les couleurs. Au début de ce texte, les couleurs sont foncées. On nous dit grenat et prune. Donc ça fait référence au début du massacre, au sang et à l'obscurité de l'homme. On peut aussi dire que le peintre essaye de trouver en lui la paix intérieure, mais il ne l'a pas encore trouvée et il la trouvera à la fin du massacre. Au milieu du texte, il y a une couleur foncée, le vert sombre, et une couleur claire, le jaune éclatant. Donc le jaune qui peut faire référence aux flammes et au village en train de brûler. Il est en train de s'apaiser par la mort des autres. À la fin du texte, on nous parle du céladon tendre, qui est une couleur verte claire. Elle signe la fin du massacre et le calme qui revient peu à peu sur la ville. Le peintre est enfin apaisé par la mort de toutes ces personnes. Donc ce peintre est un soldat qu'on pourrait qualifier d'inhumain parce que dans le texte il y a de nombreux adjectifs qui s'y réfèrent et qui sont plutôt neutres voire normaux. Cela nous montre que le peintre ne ressent presque aucune émotion et reste totalement insensible aux multiples signes du massacre se déroulant autour de lui.
Parmi ces soldats nazis, il y en a certains qui sont conscients de ce qu'ils font et qui se plaignent surtout du travail à la chaîne. Mais l'autre partie qui est beaucoup plus importante, ont surtout peur de leurs supérieurs et sont considérés comme inconscients. Et ils s'en servent pour justifier moralement leurs assassinats. Dans le cas de Oradour, la division SS d'Eichreich est habituée aux tueries et donc ils restent stoïques et calmes lors de leurs meurtres et sans hésitation. Comme le montre le texte, certes en exagérant le fait que le soldat peigne sans aucune réaction, sans aucune sensation, alors qu'il y a des cris de douleur et de personnes et des odeurs de personnes qui meurent, montre la cruauté des soldats nazis lors de ce massacre à Oradour.
Écoutez toujours
les 609 d'Alain Fournier.
Bonjour, avec mon groupe composé de Virgile, Copain, Amir Abbé, Cynthia Moreau et moi, Nathan Darmia, nous allons vous présenter le déroulé des événements du massacre d'Oradour sur Glane. D'après un recensement de la population en 1936, Oradour comporte 1574 habitants, dont 330 dans le bourg et 1244 dans 53 lieux-dits. La veille du massacre, 191 enfants sont inscrits dans les écoles. Le jour suivant, le 10 juin 1944, les habitants étaient dans les champs, les écoliers étaient regroupés à la maison des enfants pour une visite médicale. C'était une journée banale. À 14h, heure allemande, c'est-à-dire 13h en heure française, une colonne de la 3e compagnie du bataillon 1 du régiment d'Air Führer de la division Waffen-SS d'Eichreich arrive à Oradour sur Glane. Il partait d'un village voisin, Saint-Junien. Il y avait plus de 200 soldats et quelques véhicules semi-chenillés, blindés. Le convoi s'arrête à l'entrée du bourg. Une partie se déploie autour du bourg pour commencer l'encerclement et empêcher quiconque de rentrer ou de sortir. Le reste de la colonne traverse le village par la voie principale pour s'arrêter en haut du village. Les soldats se déploient autour des habitations pour rassembler la population sur la place, le champ de foire. Cela dure environ une demi-heure. Il y a ensuite la séparation. Les hommes sont rangés par trois le long des habitations face au mur, sur la place, pendant que les femmes et les enfants sont déplacés derrière leur dos. Un interprète leur dit que leur venue est due à un signalement d'armes à Oradour. Ils demandent alors aux hommes qui a des armes. Tout le monde répond qu'il n'y a pas d'armes ici. Et il dit qu'ils vont les mettre dans les granges pour les surveiller pendant qu'ils fouillent le village à la recherche de ces armes. En effet, personne ne se doute de rien, car les soldats ont une tenue camouflée, mais ils ne portent aucune insigne. Je vais maintenant laisser la parole à Amira.
À 16h, les soldats organisent les hommes en ces groupes d'environ 30 personnes. Ils sont amenés dans 6 lieux différents. Chez Denis, Grange Lodi, Garage des Orteaux, Garage Mélord, Garage Bouchoul. Ils sont alors surveillés par un soldat avec une mitrailleuse qui est en position de tirer. Ils leur ont dit qu'après la perquisition, ils seront libres. Mais une explosion surgit dans le village. C'est le signal pour les matrailleurs de commencer à tirer sur tout le monde. Et les corps tombent les uns sur les autres. Dans le Grange Lodi, une fois la fusillade terminée, les soldats montent sur le tas de cadavres et donnent le coup de grâce au pistolet à tous ceux qui montrent un signe de vie. Ensuite, avec la paille qui était sur le sol de la grange, les soldats recouvrent les corps. Ils parlent quelques minutes, puis reviennent mettre le feu au tas de cadavres et de paille. Une fois le feu démarré, ils parlent ce qui a permis aux 5 survivants de fuir avant de brûler vifs. Ils réussirent à se cacher. Ils entendent de tirs un peu partout, des explosions de bombes, de gaz. Des tuiles qui explosent à cause de la chaleur des bâtiments en feu. Les soldats font ensuite de rendre dans le village.
Nous allons maintenant écouter Virgile qui va nous parler des femmes et des enfants et plus particulièrement de Marguerite Roufanche.
Le massacre a fait 2 fois plus de victimes chez les femmes et enfants que chez les hommes et adolescents. On compte 350 victimes, toutes enfermées lors du massacre, à l'exception d'une unique personne qui réussit à s'échapper. Marguerite Roufanche, alors âgée de 47 ans. Elle est également la seule rescapée de la famille. Les SS conduisirent ses femmes et enfants dans l'ancienne église Saint-Martin du village Martyr, avec pour projet de faire s'effondrer la voûte sur le groupe à l'aide d'une charge explosive placée dans la nef par un groupe de jeunes SS. Ces derniers allumèrent l'engin à l'aide des cordons qui reposaient au sol. Une forte explosion se produisit alors, suivie de l'émanation d'une épaisse fumée noire, provoquant la panique et la suffocation du groupe qui se précipita dans les espaces de l'église, dans lesquels la fumée n'avait pas encore pénétré. L'union des victimes permit l'enfoncement de la porte de la sacristie dans laquelle Marguerite Roufanche se réfugia avec sa fille. Il ne fallut que très peu de temps pour que les soldats allemands s'aperçurent de la supercherie. Ils n'hésitèrent pas à abattre ceux qui cherchaient à y trouver refuge. La fille de Marguerite fut victime de cette fusillade. C'est alors que Marguerite eut l'idée de simuler sa mort, puis de se faufiler dans un nuage de fumée afin de se rendre discrètement derrière le maître-autel, sans être vue par les SS, occupés par la fusillade et le recouvrement des corps gisant par divers matériaux, de la paille, des fagots, des chaises, ainsi que tout ce qui avait été pillé dans les domiciles des habitants et les débris de l'église abîmés par les diverses manifestations dans les différentes pièces. Derrière le maître-autel se trouvaient 3 fenêtres, dont la plus épaisse était brisée. Marguerite saisit l'escabeau qui servait à allumer les cierges, sans succès faute d'une hauteur insuffisante, mais ses forces se virent décuplées. Elle parvint donc à atteindre cette fenêtre et sans hésitation effectua un saut de plus de 3 mètres avant de s'enfuir jusqu'au jardin du presbytère. Elle était suivie par une femme lui tendant son bébé, mais elle ne put l'aider car les Allemands commencèrent à le fusiller. Marguerite fut touchée, mais elle continua sa fuite vers des jardins voisins où elle se cacha parmi des rangs de petits pois, où elle dut attendre dans l'angoisse pendant 48 heures de plus. Pendant ce temps, les SS continuaient le massacre en multipliant les fusillades, en jetant des grenades et en mettant le feu à l'église. Marguerite fut la seule rescapée de l'église et l'une des 4 femmes qui échappèrent au massacre. Quant à l'église, elle ne fut reconstruite que 10 ans plus tard, en même temps que le nouveau bourg d'Oradour, bien que la durée du chantier fût rallongée à cause du long deuil des habitants, dont le nombre était fortement réduit.
Nous allons pour finir écouter Cynthia.
À 19h, toutes les maisons, tous les bâtiments sont en feu et il n'y a plus de toiture. Les survivants ont pris la fuite par le cimetière alors qu'il y a encore des rafales de balles. Une partie des SS quitte Oradour entre 21h et 22h, alors que d'autres restent pour interdire l'accès au bourg et surveiller les incendies. En tout, 191 hommes périssent. Il y a seulement 5 survivants qui étaient présents dans la grange Lodi. Les corps, en partie calcinés, joncent sur le sol partout dans le village. 247 femmes et 206 enfants meurent dans l'église incendiée. Seule une femme réussit à survivre. Maintenant, je vais vous lire un poème qui s'intitule « Oradour sur Glane » de Hélène Roula. D'abord, c'est le silence, un silence poignant. Et dès les premiers pas, quelque chose nous hante. On est interpellé par les âmes vivantes, ce village figé hurle au monde son sang. En ce mois de juin, la vie suivait sa route. L'avenir musical, l'été et ses atouts, les foires et le foot agrémentaient les jours. Chacun rêvait encore malgré l'état de doute. Un tramway, quelques fils électriques, un jouet, l'enfer s'est abattu sur les rues, sur l'école. Les noms des habitants font partie du symbole, qui nous porte hors du temps, impuissants et muets. Le vent court sur le rouille et le noir de ces ruines, chantant une complainte en hommage aux martyrs, qui sans savoir pourquoi ont dû vite partir. Innocents, condamnés qu'une erreur extermine.
Vous écoutez toujours
Les 609 d'Alain Fournier.
Bonjour, vous êtes toujours avec la classe des 609. Je suis Alexis et nous allons parler d'Oradour avant et après le massacre. Pour parler, je suis avec Oriane, Lola, Manon, Kirochaleni et Mathilde. Nous allons commencer par voir Oradour avant le massacre, puis nous parlerons d'Oradour après le massacre. Nous commençons par parler d'Oradour avant le massacre. Oriane, parle-nous un peu du cadre historique d'Oradour.
Oradour-sur-Glane est une petite commune française située dans le département de la Haute-Vienne. Là-bas y vivent les Radounous, le nom des habitants. En 1936, grâce au recensement, on compte plus de 1574 habitants. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Oradour n'est que très peu touché par la guerre. Malgré sa proximité avec des résistants ou encore l'accueil des réfugiés lorrains à Charlie Oradour. Aucun conflit avec les Allemands n'est prononcé. Le massacre du 10 juin 1944 restera une vraie surprise pour tout le monde.
Merci Oriane. Maintenant, Lola va nous dire en quoi Oradour était un village du quotidien.
Donc Oradour-sur-Glane était une commune française située à 20 km de Limoges. Au début du XXe siècle, Oradour était un petit village actif et ordinaire. On y retrouvait donc des commerces, cafés, hôtels, boutiquiers et artisans. Oradour vivait principalement de l'agriculture jusqu'à la crise du secteur agricole qui fait se dépeupler lentement les campagnes. En 1944, il ne reste plus que 2 exploitations sur la commune. Le village se modernise avec notamment l'arrivée du tramway départemental qui le relie à Limoges. Outre tous ses commerces, Oradour possède une harmonie municipale et 3 écoles. La Seconde Guerre mondiale mobilisa 168 hommes de la commune, dont 113 hommes purent rentrer au village dès l'armistice. Le village fut relativement épargné par la guerre jusqu'au massacre.
Enchaînons avec Oradour après le massacre. En commençant par voir sa reconstruction sur un nouveau territoire avec Manon qui va nous en parler.
Peu de temps après le massacre, le Conseil des ministres prend la décision de reconstruire le village d'Oradour-sur-Glane et de conserver les ruines de l'ancien bourg. En mai 1946, une loi est votée afin de reconstruire tout en conservant le style architectural le nouvel Oradour. Cela classe le site comme un monument historique. Le choix a été de reconstruire le village afin qu'il paraisse très ressemblant de l'ancien, avant le massacre. 2 monuments dévient de cette règle, l'église et la mairie. Quelques consignes sont données pour encadrer la construction des maisons. Par exemple, elles ont un seul étage, la toiture est en tuiles. Il y a certaines modifications. L'école est en un seul bâtiment, la mairie est plus grande. On y trouve un grand escalier et un balcon. L'église a un caractère austère et se situe à l'entrée du bourg. On remarque donc que le nouvel Oradour a des similitudes avec l'ancien. les architectes et le gouvernement ont choisi de mettre en avant certains édifices afin de reconstruire un village plus fort et garant du devoir de mémoire. La reconstruction ne peut être que physique, elle doit passer par une mobilisation des habitants du nouvel Oradour et de la vie qu'ils apportent.
Très bien. Continuons avec Kirosha Leni qui nous prouvera qu'Oradour se reconstruit en tant que village du quotidien.
En effet, depuis 1944, nous avons une grande évolution, que ce soit dans le village en lui-même ou directement concernant les habitants. Car malgré un passé très nostalgique et douloureux, les habitants sont fiers et heureux d'habiter à Oradour-sur-Glane. Oradour est devenu, du fait de sa reconstruction, un village du quotidien, mais il est également très attractif. Par exemple, les commerces ont considérablement augmenté. On y retrouve donc des hôtels, des restaurants, des bars, des entreprises, ainsi que des soins, ce qui fait de lui quelque chose d'ordinaire. Ensuite, au niveau patrimoine, nous pouvons découvrir la nouvelle église, positionnée à l'entrée du nouveau bourg. Ensuite, la statue de Saint-Victurnien ou la statue de Fénossa, qui a été dédiée aux martyrs d'Oradour, la rendent intéressante. Mais encore, diverses activités sont proposées. Par exemple, des parcs, permettant de faire une promenade ou se retrouver entre amis ou famille. Ce nouveau bourg est également attractif grâce au tourisme, en proposant de nombreuses visites guidées, comme par exemple de savoir comment Oradour a pu se reconstruire suite au massacre du 10 juin 1944. De plus, à Oradour, nous y célébrons 3 jours de fêtes et d'animations. Tout ceci se déroule du 8, 9 et 10 mai. Par exemple, le 5 mai et le 10 mai est dédié à la fête foraine. Donc tout ceci nous prouve que Oradour est devenu un village du quotidien et très attractif. Il faut noter qu'Oradour-sur-Glane va d'autant plus être attractif dû à ses projets technologiques, donc dû à ses innovations.
Nous allons poursuivre avec Mathilde, qui nous montrera qu'Oradour réussit à se réinventer.
La ville se démarque d'autant avec ses innovations. En effet, Philippe Lacroix, le maire d'Oradour, a différents projets pour la commune dans lesquels il faudra tenir compte des restrictions budgétaires. Il souhaite poursuivre la sécurité dans les écoles, les travaux de réfection dans les rues, ainsi que la mise en place de 2 projets d'implantation d'entreprises en zone industrielle et un funérarium qui devront se concrétiser cette année. Il a aussi évoqué la réalisation des débuts de travaux d'une bibliothèque multimédia qui est fixée pour automne 2019. Un chantier débutera cette année jusqu'en 2020 qui a pour projet de construire 3 pavillons pour personnes âgées et handicapées. Des associations comme Nico Temprod ont pour ambition de diversifier la ville. En effet, cette association met en place un festival le 27 et 28 décembre 2019. Le festival s'appelle Son de Glane, dans lequel on vous propose des spectacles diversifiés, comme des concerts, arts de rue, cirque ou autres, dans Oradour-sur-Glane. Celle-ci commence le vendredi soir et se clôture le samedi soir, où l'association souhaite faire vivre la ville au rythme des spectacles. L'attractivité de la ville permet aux habitants de se divertir, notamment avec le festival, ainsi que de nombreuses constructions pour améliorer la qualité de vie des habitants sans jamais oublier son histoire.
Merci à tous les 5 d'avoir accepté de nous parler un peu d'Oradour. Maintenant, nous en savons un peu plus sur cette ville à l'histoire tragique. Au revoir, c'était Alexis. Je vais passer le micro à mon camarade Fabio qui va nous parler de la vie des survivants.
Je vais lire un extrait du poème de Vercors nommé Oradour. Sourire au bord des années, douceur pure et ornée, prenant la forme du cœur. Sourire des routes folles, enlaçant le seul vainqueur. De tant de sourdes corolles. Sourire enfin sourire, doucement pur sans limite, que tant de lèvres imitent, on vous a tué. Tordu, effacé, rompu, il a suffi d'un sourire. Sur un visage de chair, un sourire, un seul sourire. Un gai sourire de chair, de ce que le cœur attend, de ce que le cœur entend. Un sourire qui prétend que tous les hommes sont fiers. Il adressait ce sourire à des enfants, à leur mère. Et c'était leur bourreau.
Thank you.
écoutez toujours
Les 609 d'Alain Fournier.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième partie de l'émission. Je suis Fabio et je présenterai cette partie qui sera axée sur la vie des survivants. Rappelons que durant ce terrible événement, 642 personnes ont perdu la vie et seulement 3 personnes ont survécu. Nous allons vous parler de la vie de ces 3 personnes. Premièrement, Théa nous parlera de Marguerite Roufanche. Ensuite, Asia et Hossan nous parleront de Jean-Marcel Dartout. Et enfin, Myriam, avec l'aide de Sarah qui n'a malheureusement pas pu être présente, nous parlera de Robert Ebras. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Théa.
Bonjour. En effet, je vais vous parler de Marguerite Roufanche. C'est la seule femme à avoir survécu à ce massacre qui s'est passé le 10 juin 1944. Avant ce massacre, elle avait une vie tranquille avec son mari, son fils, ses deux filles ainsi que son petit-fils. Ce jour-là, elle y a perdu toute sa famille. Elle avait 47 ans.
Comment a-t-elle survécu à ce drame ?
Très bonne question. Lors du massacre, elle a été dirigée avec ses deux filles et son petit-fils dans l'église, là où toutes les femmes et les enfants ont été tués. Lorsque les soldats les ont fusillés et ont mis le feu à l'église, elle dit avoir été sauvée en se faisant passer pour morte. Dans l'église, elle se réfugia derrière le maître-autel, et dans cette partie de l'église, il existait 3 fenêtres. Elle se dirigea donc vers celle du milieu, la plus grande, qui était brisée, et à l'aide d'un escabeau, elle se hissa et fit un saut de plus de 3 mètres. Dans sa fuite, elle avait été suivie par une femme et son bébé. Elle a donc voulu les aider, mais les soldats furent alertés par les cris du bébé et les mitraillèrent. Marguerite reçut 5 balles et la femme et son bébé furent tués. Malgré les balles, elle réussit à se cacher dans un jardin voisin et y resta jusqu'au lendemain vers 17h avant d'être secourue. Avant sa mort en mars 1988, à l'âge de 90 ans, elle a déménagé près de la mairie de la nouvelle ville d'Oradour en 1953. Elle a fait partie, avec les autres rescapés, de l'Association nationale des familles martyrs qui sert à veiller au devoir de mémoire et à maintenir le souvenir du drame pour les générations futures. Elle a également témoigné, ainsi que les autres rescapés, lors du procès de Bordeaux le 12 janvier 1953.
Merci Théa, je vais maintenant céder la parole à Asia et Océane.
Merci Fabio, je suis Océane.
Et moi Asia.
Nous allons maintenant parler de Jean-Marcel Dartout, qui est né en 1925 et mort le 4 octobre 2016 à l'âge de 92 ans. Ayant survécu au massacre d'Oradour avec son camarade Robert Ebras, Jean-Marcel Dartout a connu une jeunesse bien mouvementée, car il n'avait que 20 ans lors du drame.
En effet, il faisait partie d'un groupe de 5 hommes ayant pu s'échapper de la grange où ils étaient détenus. Mais malheureusement, 3 d'entre eux se sont fait fusiller et brûler vifs.
En revanche, Jean-Marcel Dartout, ayant survécu, a malheureusement perdu sa femme et sa mère lors du massacre. En effet, elles étaient détenues dans l'église ainsi que 450 autres femmes et enfants.
Mais Jean-Marcel Dartout ne s'en est pas sorti indemne. Ayant reçu 5 balles, il a dû être hospitalisé pendant plusieurs mois.
À la suite du massacre, il a décidé de refaire sa vie même s'il ne s'est pas remarié. Après son hospitalisation, il part en région parisienne pour travailler dans l'automobile. En revanche, il revient de temps en temps dans le Limousin, mais ne commémore pas le 10 juin 1944, jour du drame.
Cependant, étant très rattaché à cet événement, suite à la création en 1945 de l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane, il décide de consacrer sa vie à cette cause.
Effectivement, il participe de façon active à la préparation des cérémonies commémoratoires et aide les familles. En 1985, il devient vice-président de l'association et le 13 juillet 2009, on lui attribue le titre d'officier de la Légion d'honneur.
Il participe également au procès de Bordeaux en 1953 avec son ami Robert Ebras et a également participé au procès de Berlin en 1983, où il se fait connaître par les médias. Il témoigne ce qu'il a vécu lors du massacre. Il a également joué un rôle principal dans le film documentaire Une vie avec Oradour de 2011, toujours en compagnie de Robert Ebras.
Jean-Marcel Dartout ne dit avoir survécu uniquement par chance. Lorsque les SS ont commencé à fusiller tout le monde, il est tombé sous les corps de ses camarades déjà décédés et se faisant passer pour mort, il a réussi à s'échapper. À sa mort, il voulait être enterré à Oradour où il avait déjà préparé son caveau. Il a dit, je cite, « C'est ici que je veux être, près de mes morts, près de ma mère et de ma femme. Aujourd'hui, il repose en paix avec ceux qu'il aime. »
Eh bien, merci à vous. Je cède pour finir la parole à Myriam.
Donc, je vais vous parler de Robert Ebras, un symbole des atrocités nazies. Né le 29 juin 1925 à Oradour-sur-Glane, il a actuellement 93 ans et c'est l'une des 6 personnes à avoir survécu au massacre d'Oradour. Il avait donc 19 ans lors de ce drame. Depuis le décès de Jean-Marcel Dartout, il est le seul survivant du massacre encore aujourd'hui. Robert Ebras est issu d'une famille plutôt modeste. Il dit lui-même qu'il menait une vie heureuse jusqu'au jour du massacre. Il avait 3 sœurs et c'était un enfant plutôt gâté. Lors de ses 19 ans, il assista donc au massacre d'Oradour et réussit à survivre avec l'aide de certains garçons, eux aussi survivants. Ce jour-là, sa mère et ses 2 sœurs ont perdu la vie. Après le massacre pendant la Seconde Guerre mondiale en 1944, Robert Ebras a participé activement à la résistance contre le national-socialisme et a combattu sur le champ de bataille. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, le procès d'Oradour eut lieu le 12 juin 1953 à Bordeaux. Les accusés sont jugés pour la tuerie perpétrée en juin 1944 dans le village du Limousin. Ce procès a duré plusieurs années à cause des désaccords qu'il causait et Robert a témoigné des atrocités qu'il avait vécues ce jour-là. Suite à ce procès, plusieurs Allemands et Alsaciens ont été condamnés. Robert Ebras a aussi en 1983 assisté à un débat judiciaire contre l'un des bourreaux à Oradour.
Il me semble que Robert Ebras a écrit des livres.
Oui, il réalisa et participa à plusieurs œuvres pour témoigner de son vécu, comme des documentaires mais aussi des livres. Donc, il a notamment écrit 4 livres, comme « Oradour sur Glane, le drame heure par heure »,« Avant que ma voix ne s'éteigne » et « Drame heure par heure ». Donc, « Avant que ma voix ne s'éteigne », écrit en 2014. Et Robert Ebras a écrit comme résumé « La vie était paisible en 1944 à Oradour ». Ce petit village limousin semblait vivre la guerre de loin jusqu'à ce samedi, 10 juin 1944, où 642 femmes, enfants et hommes vont être massacrés par la 2e division Panzer, surnommée Das Reich. Robert Ebras, survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, livre ses dernières paroles à son ami Laurent Bordery, journaliste au Populaire. Confidence d'un homme unique qui se veut être un témoignage universel pour les générations futures.
Merci Myriam, c'est ainsi que se termine notre partie sur la vie des survivants. Nous allons maintenant vous laisser sur une chanson de Gérard Berliner intitulée « Les amants d'Oradour ».
De nom sur la liste de cet hôtel gentil pour commis voyageurs, le feu a dévoré les meubles, le registre, le grand lit dans la chambre au doux papier à fleurs. Il s'avait pris de clés pour taire les soupçons, le tramway de Limoges passait sous le balcon ne sait rien, ma femme ignore tout. Être amant dans la guerre, c'est être amant partout. Personne ne saura, mon amour, que nous étions ce jour ici à Oradour. Les hommes étaient au champ, les enfants à l'école, le boulanger au four, le menuisier au bois, et l'air était parfait aux oiseaux, aux paroles, dans les draps ouverts, ils étaient dans les bras. Quand les soldats bouclèrent chaque mur innocent sur la place de foire, 15 heures étaient sonnant, sonnant. De passage, alors que craignons-nous? Être amant dans la guerre, c'est être amant et fou. On leur expliquera, mon amour, nos papiers sont à jour, on n'est pas d'Oradour. Assurez les pères et les fils, les vieillards en fin d'âge, partout se cacher, le crime mitraillé. Et des cloches a fondu sur les mers anciennes. la guerre, c'est être à mort de tout. Tu vois, on leur échappe à les coups, mon amour. Ça y est, on leur échappe, mon amour. Sur l'herbe toute bleue, un peu avant la glane, les balles les ont frappés en peignoir et pieds nus, là où leurs yeux moururent. La rivière coule en larmes, la campagne et les arbres ont tout vu, tout vécu, tout vécu. Seigneur, j'ai chanté simplement, même si je crois pas en vous. Être amant dans la guerre, c'est être amant absous. Mais j'espère qu'il y a au ciel, et pour la fin des jours, un grand lit plein d'amour aux amants d'Oradour.
Bonjour à toutes et à tous. La partie que nous allons vous présenter porte sur le devoir de mémoire. Bien évidemment, en référence au tragique événement survenu le 10 juin 1944 à Oradour-sur-Glane. Pour nous, le devoir de mémoire semble être quelque chose d'indispensable qui doit surtout être pris en compte dans notre façon de penser et d'agir. En effet, il est toujours bon de se remémorer l'histoire afin de nous permettre d'agir différemment, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. L'histoire doit nous servir de leçon. Vous allez, dans un instant, écouter Théo, qui va vous présenter la ville et les ruines d'Oradour.
Bonjour à tous, ici Théo. Je vais vous parler des villes et des ruines d'Oradour. Donc, rapidement après le drame, il fut question de conserver le village en ruine pour en faire un mémorial qui a été construit en 1999. C'est l'historienne américaine Sarah Framer qui a très bien décrit les enjeux de ce culte de souvenirs. Elle livre la signification d'une telle démarche. Il s'agissait de rendre hommage à un village et de promouvoir une mémoire collective. Les traces, les ruines conservées, permettraient à nos descendants de venir se recueillir. C'est une phrase que Sarah Framer a dit. Oradour a été transformé en mausolée, donc c'est-à-dire un somptueux monument funéraire. Dès 1946, une loi décida de la conservation des ruines, tout en construisant un nouveau bourg. Par ailleurs, le cimetière nécessitait quant à lui d'être entretenu, car des ruines, ça se dégrade très souvent. D'autres ruines qui ont été conservées pour venir se recueillir, on a l'église qui a été détruite, qui a été brûlée pendant le massacre, et le hall du marché du bourg, qui est classé désormais monument historique. Et il y a la rue principale également, qui a été en ruine, et qui est dénommée rue des Ourteaux, qui est un ancien maire d'Oradour. Et désormais, aujourd'hui, les ruines elles sont entretenues, et la conservation se dirige dans le sens d'une esthétisation, parce que des ruines sont très dures à conserver, du coup, ils ont décidé de les rendre plus esthétiques. Et c'est un parcours destiné à susciter l'émotion des visiteurs. Voilà.
Merci Théo. Je vais maintenant laisser la parole à Clarisse, qui va nous parler des témoignages et des écrits des survivants.
Seuls 6 habitants ont survécu au massacre d'Oradour-sur-Glane. Le seul encore vivant de nos jours est Robert Ebras. Il n'avait que 19 ans en 1944. Depuis, il s'est engagé pour la réconciliation entre la France et l'Allemagne et malgré son âge, il entreprend encore des visites guidées dans les ruines du village martyr, surtout avec des jeunes venus de toute la France et même d'Allemagne. En 2014, il a publié son 3e livre sur le massacre, Avant que ma voix ne s'éteigne. Comme il le dit lui-même, ce livre est un témoignage pour que l'on n'oublie pas ce drame. Après sa mort, il n'y aura plus de témoins directs, il est le dernier à encore pouvoir nous raconter cette histoire. Selon lui, c'est son devoir de partager ce moment tragique de sa vie avec les générations futures. Je suis heureux que mon témoignage persiste après moi. Lorsque je ne serai plus là, il faudra que ce témoignage reste dans les mémoires. Voilà ce que nous dit Robert Ebras. Mais alors pourquoi ? Pourquoi y a-t-il un devoir de mémoire sur Oradour-sur-Glane ? Eh bien pour ne pas oublier. Ne pas oublier les 642 victimes, hommes, femmes et enfants,
ne pas oublier la barbarie afin que cela ne se reproduise jamais et pour sensibiliser les jeunes générations pour ne pas qu'ils reproduisent les erreurs de leurs aînés.
Merci Clarisse. Nous allons maintenant écouter Mathis qui vous fera le témoignage d'un ancien SS.
Pour ma part, je vais vous évoquer un témoignage d'un ancien SS. Les SS étaient une organisation du régime nazi allemand. L'ancien SS s'appelait Werner C. Il dit être terrifié par ce qu'il s'est passé. Il n'avait que 19 ans lors du massacre et devait juste obéir aux ordres de ses supérieurs. Il a été reconnu coupable que très tard dans sa vie et s'en est voulu. Il raconte les faits du 10 juin 1944. Il y a une détonation dans l'église, j'étais à distance, on a entendu les cris des femmes et des enfants, j'étais effondré. Nos supérieurs étaient stupides, mais nous ne pouvions rien faire contre eux. Il avoue que beaucoup de combattants comme lui avaient essayé de sauver des adolescents et des femmes. Je ne cesse jamais d'y penser. Parfois, je vais en France et j'ai honte. J'accepterai toute peine d'emprisonnement. Il avait une telle pression qu'on ne pouvait pas réfléchir. Après ce témoignage assez osé, le survivant Robert Ebras a reconnu le courage que Werner a eu, mais il lui reproche de ne pas savoir comment les 642 victimes sont mortes. Je ne souhaite pas spécialement qu'il soit condamné, ce que je souhaite c'est qu'il dise la vérité. Le sujet est de savoir à Oradour qui a fait quoi. Je suis prêt au dialogue, mais pas à lui serrer la main. À travers ce témoignage de Werner C., on peut comprendre qu'une partie des jeunes Allemands devait combattre contre leur gré.
Merci Mathis. Je vais moi-même à présent vous parler de l'expression des sentiments dans les poèmes de Tardieu et de Vercors. Donc comme je viens de vous le dire, des poètes comme Vercors ou encore Tardieu ont écrit des poèmes amenant à la réflexion sur ce qu'est réellement un devoir de mémoire. Pour eux, la tâche n'a pas été simple, car au vu des événements, il leur a été très difficile de trouver les mots justes correspondant aux émotions ressenties. Même si les deux poètes vont exprimer de deux manières différentes, ils souhaitent que de cette violence, la vie puisse renaître. Vercors met par exemple en avant les sourires et incite à ne pas pleurer, mais plutôt à redonner le souffle de la vie. Je vais à présent vous lire un extrait du poème écrit par Jean Tardieu. Oradour n'a plus de femme, Oradour n'a plus un homme, Oradour n'a plus de feuilles, Oradour n'a plus de pierre, Oradour n'a plus d'église, Oradour n'a plus d'enfants, plus de fumée, plus de rire, plus de toit, plus de grenier, plus de meule, plus d'amour, plus de vin, plus de chansons. Oradour, j'ai peur d'entendre, Oradour, je n'ose pas approcher de tes blessures, de ton sang, de tes ruines. Je ne peux pas voir ni entendre ton nom. Oradour, je crie et hurle, chaque fois qu'un cœur éclate, sous les coups des assassins, une tête épouvantée, deux yeux larges, deux yeux rouges, deux yeux graves, deux yeux grands. Comme la nuit, la folie, deux yeux de petits enfants, ils ne me quitteront pas. Oradour, je n'ose plus lire ou prononcer ton nom. Oradour, honte des hommes, Oradour, honte éternelle. Nos cœurs ne s'apaiseront que par la pire vengeance, haine et honte pour toujours. Oradour n'a plus de forme, Oradour, femme ni homme. Oradour n'a plus d'enfants, Oradour n'a plus de feuilles, Oradour n'a plus d'église, plus de fumée, plus de filles, plus de soir ni de matin, plus de pleurs ni de chansons. Oradour n'est plus qu'un cri, et c'est bien la pire offense au village qui vivait, et c'est bien la pire honte que de n'être plus qu'un cri. Nom de la haine des hommes, nom de la honte des hommes, le nom de notre vengeance qu'à travers toutes nos terres, on écoute en frissonnant, une bouche sans personne qui hurle pour tous les temps. Nous allons à présent écouter Gwendoline qui va nous parler de la cérémonie du massacre.
Le 10 juin 1944, la ville d'Oradour-sur-Glane est prise d'assaut par les sections SS allemandes et a tué des centaines de personnes. Chaque année, une cérémonie est réalisée en leur honneur. Le 10 juin 2018, la cérémonie en hommage du village martyr d'Oradour-sur-Glane s'est déroulée dans l'intimité, c'est-à-dire sans la présence d'un représentant de l'État, contrairement à certaines années précédentes. Cependant, cela n'a pas empêché de rendre hommage aux 642 victimes mortes sous les balles des nazis le 10 juin 1944. Ce fut le préfet de la région, Raphaël Le Léauté, qui présidait la cérémonie. C'est après la messe de 14h à 15h que les personnalités se retrouvèrent à l'hôtel de ville, où fut prononcé un discours par le maire d'Oradour et où débutera le cortège à 15h30. C'est sous une pluie battante que les porte-drapeaux ont mené le cortège pour se recueillir tour à tour devant le monument aux morts des enfants des écoles, pour y déposer des gerbes et se recueillir. Ensuite, ils se sont dirigés vers celui des deux guerres, puis dans l'église en l'honneur de ces hommes, femmes et enfants brûlés vifs. Une minute de silence, sous la demande de Robert Hébras, un rescapé du massacre, fut observée sur le champ de foire où ont été rassemblées les victimes. Finalement, la cérémonie s'est terminée au tombeau des martyrs. Il y eut un dernier dépôt de gerbes et un moment de recueillement. À chaque moment fut déposé des gerbes. C'est comme cela que s'est déroulée la cérémonie en présence de Robert Hébras, qui est présent chaque année, des enfants de l'école de la commune, des civils, le préfet de la région, le maire du Nouvel Oradour et des lycéens de la région parisienne.
Merci Gwendoline. Nous allons désormais écouter Élodie, qui va nous parler du musée d'Oradour.
Le Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane est un projet qui a été présenté à François Mitterrand en 1989 par Jean-Claude Perronnet, président du Conseil général de la Haute-Vienne et avec l'accord de l'Association des familles des martyrs d'Oradour. Cette intention a reçu de nombreux soutiens, tels que celui du ministère de la Culture, du secrétariat aux anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que de la région du Limousin et de la Communauté économique européenne. Ce centre, qui est sous la forme d'un musée mémoriel, se situe près du village martyr. Il s'est fixé comme but de rappeler l'affreusité des crimes commis par la 2e division blindée de la Waffen-SS le 10 juin 1944. Également, ce musée veut informer et être un mémorial pour les générations futures grâce au parcours formé à l'intérieur qui permet aux visiteurs de suivre la vie de cette ville au fur et à mesure de la visite. Le 16 juillet 1999, le musée mémorial a été inauguré par le président Jacques Chirac et la ministre de la Culture de cette époque. Depuis, chaque année, il accueille plus de 300 000 visiteurs qui viennent voir l'exposition permanente retraçant le contexte historique et le massacre, ou encore les expositions temporaires et celles itinérantes. Pour finir, sur son toit terrasse, qui est un prolongement du sol, les visiteurs observent la vallée de la Glane, les ruines et le nouveau village. À l'intérieur, le rouge et le noir sont utilisés pour la description du nazisme et du parcours de la division. A contrario, la description de la vie à Oradour se fait par des couleurs et des matériaux doux et lumineux.
Merci Élodie. Pour finir, nous allons écouter Joris qui va nous parler du site internet d'Oradour.
Le site internet d'Oradour s'appelle le Centre de la mémoire d'Oradour. Le lien est le suivant, oradour.org. Sur ce site, on peut retrouver pas mal d'infos très pratiques, comme les horaires du site. Le site est ouvert 7 jours sur 7, du 1er février au 15 décembre. Du 16 décembre jusqu'au 31 janvier, le site est fermé. Le site se localise dans le département de la Haute-Vienne, en région de Nouvelle-Aquitaine. On peut aussi retrouver les tarifs. C'est 7,80€ pour un adulte et 5,20€ pour un enfant qui a plus de 10 ans. Sinon, c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Nous pouvons contacter le centre d'Oradour par téléphone ou alors par mail. Sur le site, on retrouve une galerie photo et vidéo, dont une photo célèbre de Robert Hébras et François Hollande qui date du 4 septembre 2013. Et grâce aux progrès technologiques, il y a également une visite virtuelle proposée du centre.
Merci Joris, ainsi qu'à vous tous, Théo, Mathis, Clarisse, Gwendoline, Élodie et Joris. Merci également à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.
Vous écoutez toujours
les 609 d'Alain Fournier.
Nous allons à présent parler d'un spectacle auquel nous avons assisté le 16 novembre 2018 à la médiathèque de Bourges, dans le cadre du Festival des Solidarités. Ce spectacle se nomme « La vie avec Oradour », créé et joué par Bernadette Bidode. Marie, donne-nous quelques informations sur Bernadette Bidode.
Bernadette Bidode est une conteuse et auteure française née en 1968 en Vendée. Après s'être posée de multiples questions, Bernadette Bidode décide de se lancer dans le conte pour raconter des histoires. C'est en 1990 qu'elle présente sa première création, La Dame Blanche. Histoire après histoire, elle compte aujourd'hui dans des festivals d'art de la parole en France et à l'étranger. Puis elle décide d'écrire Les Temps qui courent, volet 1, La vie avec Oradour, où elle a notamment pu collaborer avec Robert Ebras.
Nous avons passé un appel téléphonique avec Bernadette Bidod, où elle a répondu à nos questions. Nous allons vous passer cet appel tout de suite.
Alors bonjour, mes camarades et moi de la classe de 609 de première S au lycée Alain Fournier allons vous poser quelques questions au sujet de votre spectacle que nous avons vu avec Monsieur Marron, notre professeur de français.
Donc pourquoi avez-vous choisi d'intégrer du chant, de la danse, du dessin dans votre spectacle ?
Parce que c'est une autre manière de... ou d'autres manières, disons, de raconter l'histoire. Il y a les mots, bien sûr. Il y a ce qui est joué physiquement avec les gens qui nous voient, puisqu'on est, on est à vue, tout est vu et tout est entendu. Le geste parle aussi, même quand on est dans un silence et qu'on est en mouvement, le corps, il raconte aussi quelque chose. Quand on se tait et qu'il y a un silence, le silence aussi raconte quelque chose. Quand on chante, pour moi, c'est une autre manière de raconter l'histoire. C'est un moyen peut-être de mettre l'émotion ailleurs. On déplace l'émotion à ce moment-là quand on chante. Pour moi, c'est ça. Et si j'ai utilisé aussi de la craie au sol dans... Donc dans ce spectacle, dans La vie avec Oradour, c'est aussi une manière à la fois de tenter de dessiner ce qui est impossible en fait à rendre. C'est-à-dire quand je dessine au sol, c'est le moment où se déroule le massacre en fait. Et c'est tellement énorme de dire ça, que c'est à la fois une manière de tenir à distance l'émotion avec les gens et une tentative pour essayer de dessiner quelque chose qui n'est pas représentable. Donc ça met en distance, ça ponctue ce que je dis, ça ponctue le temps aussi qui se déroule, puisque je le mets heure par heure, j'essaie de faire un déroulé du temps qui soit, comme on me l'a raconté. Voilà pourquoi.
D'accord. En quoi votre amitié avec Robert Ebras, survivant de ce drame, a-t-elle influencé votre inspiration pour réaliser le spectacle ?
Elle a été déterminante, la rencontre avec Robert. C'est-à-dire, j'ai fait une résidence longue sur le territoire de Saint-Junien. C'est tout près d'Oradour, ça fait partie de la communauté de communes. Et dans mes rencontres, sur plein de lieux différents, que ce soit dans une bibliothèque, dans un bistrot, chez des particuliers, chez des gens, sans que je mette la conversation dessus, eh bien, cette histoire, ce qui s'est passé... là-bas, ce 10 juin 1944, eh bien, c'est revenu dans les conversations et aussi ce qu'il fallait faire de cette mémoire. Est-ce qu'il faut se souvenir? Comment il faut se souvenir? Il y avait plein de gens qui étaient d'accord et pas d'accord entre eux, toutes générations confondues. Et la rencontre avec Robert s'est faite tout à fait par hasard à une sortie de cinéma à Saint-Junien où des gens qui nous connaissaient de part et d'autre, nous ont présenté l'un à l'autre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Robert, et ma rencontre avec lui, qui n'était pas prévue, qui était complètement inattendue, les temps partagés avec lui, petit à petit, à chaque fois qu'on s'est vu et revu, ont donné, une profondeur à cette histoire et quelque chose de en chair, vous comprenez, j'avais une personne qui avait traversé ça et qui est en face de moi, qui me le raconte. C'est pas pareil que quand on lit un livre, c'est à chaque fois pas pareil, ça, quand on rencontre quelqu'un pour de vrai en face de soi qui vous dit quelque chose, C'est beaucoup plus fort pour moi, en tout cas. C'est... Je ne veux pas dire que les livres ne sont pas forts, parce que moi, je suis une grande lectrice, mais c'est... la rencontre voilà, en chair et en os avec les gens, c'est quelque chose. Et la sienne, ça a été très fort. On est devenu... Il y a une amitié qui s'est créée entre nous, petit à petit, au fur et à mesure des rencontres. Je suis allée avec lui... Il m'avait demandé de venir avec lui lorsqu'il fait des visites dans le village d'Oradour pour faire visiter, par exemple, le village à des jeunes étudiants, je sais pas, allemands, voilà, qui étaient là. Et du coup, j'étais avec lui, j'ai pu observer ce qui se passait, écouter ce qui se passait et être aussi seule avec lui dans les ruines. Et ça, il y a des moments, vous voyez, où on peut se parler. Il y a des moments où on est juste là ensemble, avec ce qui reste de ce village, et on ne dit rien. Et même quand on ne dit rien, c'est très très fort ce qui se passe. Alors voilà, donc ma rencontre avec lui, et ces moments passés avec lui, et ce qu'il m'en a dit, et pas seulement sur ça, c'est-à-dire que quand on s'est rencontrés avec lui, bah on parlait de cette histoire bien sûr, mais aussi de la vie aujourd'hui, comment elle va, de ce qui nous enchante, de ce qui nous fâche. Voilà, on a parlé de gens qu'on connaissait, de ce qu'on aime, de politique, de plein de choses, vous comprenez, on a parlé de la vie, quoi. Voilà. Et ma rencontre avec lui, la première fois, c'est aussi ce qui était peut-être déclencheur pour moi. La première question que j'ai posée, c'était à quoi il jouait quand il était petit. Et je crois que personne ne lui avait jamais demandé quelque chose comme ça. Et ça a été, voilà, une ouverture de commencer peut-être par les jeux d'enfance, par cette part de merveille de l'enfance qu'il a aussi eue, malgré tout ce qui s'est passé après. Voilà, il a connu aussi ça.
Que pensez-vous du massacre d'Oradour?
J'en pense rien de spécial, à part que c'est affreux et que c'est quelque chose qui dit la part la plus barbare que puissent porter des hommes. Et que à la fois on doit se souvenir et à la fois trouver le chemin pour qu'il n'y ait plus jamais ça. C'est ça que me raconte Oradour, c'est comment est-ce qu'on vit ensemble, comment est-ce qu'on apprend à se connaître les uns les autres, comment on apprend à ne pas avoir peur les uns des autres, voilà, comment est-ce qu'on reprend parole ensemble pour qu'une chose comme ça n'existe plus jamais. Donc voilà, ça me renvoie à ça, moi, Oradour.
Et avez-vous un lien direct avec Oradour, par exemple, par
la famille? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas du tout de la région là-bas et je n'ai pas de lien direct avec cette histoire.
D'accord.
Nous aimerions savoir aussi combien de temps avez-vous consacré à la réalisation de ce spectacle?
Ah ben c'est long parce que pendant une année et demie, j'ai rencontré beaucoup de gens, jeunes et moins jeunes. Où on a parlé de ça, mais pas que de ça, hein, de plein de choses qui se passent dans le pays, de comment va la vie pour eux, de comment ils voient leur territoire. Voilà, plein de choses très très différentes. Donc ces temps de rencontre, c'est des heures et des heures de rencontre, donc c'est même pas très quantifiable. Ensuite, il y a aussi se nourrir de ces rencontres, mais aussi aller chercher beaucoup de documentation et de près de livres, de films, enfin toutes les formes qui peuvent exister, qui sont des supports comme ça pour nourrir l'écriture. Bon, même si moi ça reste, la clé reste la rencontre avec les gens, voir ce que les gens disent, et puis après il faut trouver le chemin pour écrire, pour penser cette histoire, pour l'écrire et pour la dire à haute voix. Donc c'est un long chemin entre le fait de poser des mots, commencer à raconter, retourner à l'écriture, effacer, retourner à l'oralité. Et c'est un aller-retour qui prend beaucoup de temps. Et ensuite, je travaille aussi avec des gens voilà, qui ont pensé l'éclairage et qui ont pensé l'espace un peu avec moi, la mise en scène, si vous voulez. Donc, comment est-ce qu'on se met, comment, quelle forme on prend. Ça, c'est un travail, voilà, qui a pris, je dirais, deux ans, ouais, quelque chose comme ça. En ne faisant pas que ça, hein, parce que entre, je tournais d'autres spectacles et tout ça. Mais enfin, c'est un cheminement qui a pris deux ans. Disons, vous savez que La vie avec Oradour, c'est le premier volet d'un diptyque, c'est-à-dire d'une création qui est deux spectacles différents. Et la totalité de ces deux spectacles qui sont dans une même démarche a pris quatre ans en tout. Donc on va dire moitié-moitié, quoi. Voilà.
D'accord, merci.
Et quel message avez-vous voulu apporter avec La vie avec Oradour?
Je sais pas, vous avez écouté, donc je ne sais pas ce que vous avez entendu et ce que vous avez. Enfin, ce que ça vous a fait, comment vous avez été touché ou pas, ce que vous en pensez. C'est souvent aux gens de dire plus qu'à moi. Moi, j'ai déjà tout dit dans le spectacle. Je veux dire, c'est à la fois comment. Ne pas trahir cette mémoire, voilà, avec toutes les questions qui vont avec. Est-ce que je suis légitime pour parler de ça? Est-ce que d'où je parle? Qui je suis? C'est beaucoup de questions avant de savoir si je peux m'attaquer avec un sujet pareil. Moi, c'est le témoignage d'un parcours. Je prends celui de Robert, mais pas que, puisque vous avez vu qu'il y a aussi plein d'autres gens qui parlent dans mon histoire, hein. Et qui sont d'accord et pas d'accord avec ce qu'il faut faire de ces mémoires et qui disent comment ils sont touchés. Donc c'est questionner, pour moi, c'est questionner les gens par rapport à... C'est à la fois témoigner de ça, de ce qui s'est passé, à la fois c'est questionner le monde et qui on est, nous, quelle est notre part à nous, notre part barbare et notre part d'humanité. Et comme ma dernière partie de ce spectacle, elle est sous forme plus de... poésie, la dernière partie, c'est ma réponse à moi, c'est que sans poésie, peut-être que voilà, c'est difficile de tenir debout. Ça, c'est moi qui le dis, parce que c'est ce que je crois moi, c'est comme ça que je vis. Voilà, mais chacun peut prendre, peut interroger, peut entendre comme il veut cette histoire.
Merci.
Et enfin, dernière question, combien de fois avez-vous joué ce spectacle en France?
Ah, beaucoup, c'est-à-dire que ce spectacle, les deux spectacles, ils vont souvent ensemble, hein, que je tourne ensemble, ou une année l'un, ou un jour l'un, puis un jour l'autre. Donc là, j'ai fait ça plus de 150 fois, dans toute la France, en Belgique, en Suisse, dans toute la francophonie.
D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps pour répondre à nos questions.
Eh bien, avec plaisir. Voilà, tout ça, c'est nos histoires, notre histoire. Oui.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Léna va maintenant nous lire un extrait des textes de Bernadette Bidode.
Cher Robert, la première fois que nous nous sommes rencontrés chez toi, tu greffais tes rosiers. Tu as 85 ans. Ton geste est sûr, habile, connaisseur. Puis nous sommes rentrés dans ta maison. Plus tard, tu as parlé de tes jeux d'enfant. Les billes, les boules en terre, le palais pour la marelle, fait d'un morceau de bois. Tu m'as même montré sur le carrelage de la pièce comment ça se joue. C'est que je ne comprenais pas bien où tu trouvais le ciel sur ton dessin. Et je ne voyais pas bien le nombre de carreaux. Le ciel est toujours en haut et la terre est en bas. D'un pied, de l'autre, à cloche-pied, tu pousses le palais. Le passé, dans chaque jour de la semaine, garder l'équilibre. Ne pas rester en enfer, tenir le fil. Arriver au paradis, tu respires. Il y a eu un blanc dans la conversation, une suspension du temps. Ton regard s'est fixé là où je ne pouvais pas voir, là où je ne pouvais plus jouer. Tu t'absentes derrière tes lunettes, une seconde, un siècle. Donc ce passage est compté par Bernadette Bidode dans son spectacle, ce qui fait avancer l'histoire. Dans le deuxième extrait, Bernadette Bidode augmente le rythme, le ton et les gestes. Le spectacle devient alors plus dynamique. Traverser le Lioran, puis le Césalier, pousser la porte d'un café, et là, ce serait la cinquième dimension. Voir Syracuse et la danse des grandes cendrées, passer le col de Roncevaux, traverser l'Aubrac et regarder la neige tomber, pousser la porte d'un café et là, ce serait la septième dimension. Respirez, tout est là, tout, tout à la fois. L'odeur du buis, l'odeur des vacances, iode de chez Rouskoff, l'odeur des foins coupés, l'odeur du bitume après la pluie, liang, liang, ça pue bon, tu dis. Se taper l'écœurement du Paris-Brest, se remplir la panse de beignets aux pommes, grignoter une tartine grillée, beurrée, craquante, déglutir devant le jus du poulet avec la purée et le volcan dans la purée, les pommes de terre sautées avec des girolles, ail et persil, le canard à l'orange de ta mère, les œufs à la coque avec des mouillettes, en regardant des trapézistes faire le grand 8. Quel cirque ! S'offrir une blanquette de rigolade, une macédoine de bonheur, un fondant qui se fendrait la poire, trouver un détergent miracle contre la noirceur, une vie qui sentirait le dégel, une vie régénérée, ravigotée, ravivée, et qui sentirait le citron et la délicatesse.
Mustapha va maintenant nous présenter les cohérences entre le spectacle et l'histoire du massacre d'Oradour.
Cette pièce étant un résumé d'Oradour, durant l'attaque des Allemands, l'actrice Bernadette Bidaud nous fait vivre l'histoire en chantant, en faisant quelques pas, et même nous guide avec des dessins à la craie au cours de sa pièce. Bernadette Bidaud nous fait vivre sa pièce, même si le passé d'Oradour n'a pas été facile à évoquer.
Pour finir, Youssef et Julien vont vous présenter le spectacle, et plus en détail, et le ressenti que la classe en a eu.
Bernadette Bidaud a fait vivre son livre « La vie avec Oradour » à travers son spectacle. Grâce à ses mouvements, à sa voix et les lumières, elle nous amène avec elle dans un moment de jubilation intense et elle nous enveloppe dans une boule de chuchotement et mystère. Elle fait revivre les débats qui nous assillent tous. N'est pas oublié, n'est pas ressassé. Continue à vivre et transmettre les messages en mêlant théâtre, chant et les mouvements au milieu des spectateurs qui l'entourent. Je vous conseille d'aller voir son spectacle, car c'est un moment unique et intime de l'histoire.
Nous avons aimé ce spectacle, car il racontait l'histoire d'Oradour d'une manière originale et différente des autres. Le spectacle était, nous pensons, plus adapté pour les adolescents. Cependant, si nous devions émettre un petit bémol, ce serait qu'à des moments, Bernadette Bidaud nous perdait à force de changer de voix pour changer de personnage. Cependant, nous avons quand même bien apprécié ce spectacle car il raconte un passage important de notre histoire et nous devons donc avoir cette mémoire.
Nous vous remercions maintenant d'avoir écouté Oradour, un drame pour l'histoire, notre émission de radio, projet encadré par M. Marron, notre professeur de français au lycée Alain Fournier à Bourges, mais aussi par Alice Defresne qui fait partie de l'Office central de la coopération à l'école que nous remercions pour son aide technique et rédactionnelle. Nous remercions également Philippe Paillard qui a mis en relation notre prof de français et Alice Defresne. Puis, nous remercions également Bernadette Bidaud pour sa gentillesse, sa disponibilité et bien évidemment son beau spectacle.
Par un beau jour d'été où il a fait si chaud, des lobes, les flics ont raflé des familles entières, entassées au Veldiv, sans vivre et sans eau. Ce n'est que le début du chemin vers l'enfer. Plus tard, ils sont chargés dans des wagons à bestiaux. Enfin, ils suffoquent, la peur les tenaille. Le voyage fait déjà une partie du sale boulot. Les plus faibles en crèvent comme des chiens sur la paille. Un matin comme les autres à Auschwitz-Birkenau. Ceux-là qui fourbulèrent à gare, descendent résignés de ce train de cauchemar. Ils ne sont plus des hommes, à peine des animaux. droite, chambre à gaz, à gauche, survivre un peu. Ceux qui vont vers le néant et ceux qui leur disent adieu. Au loin, une cheminée crache toute sa fureur. Ce monde de sa mortelle puanteur. Milliers ébattus, poussés au désespoir par la botte inhumaine des bourreaux verts de gris, rongés par la vermine, maltraités, mal nourris. Les jours des corps s'envolent en nuages de fumée noire. Font-ils encore des rêves dans ces pyjamas rayés? Décharnés les yeux vides derrière les barbelés. La mort les accompagne dans chacun de leurs gestes. Espérons plus vite se devenir funeste. 1945 à la fin de janvier. Apparaissent au levant des colonnes de blindés qui ne trouveront là que quelques rescapés. Les autres sont allés. N'ayant pas vécu, c'est que la barbarie n'est toujours pas vaincue. Ici des abrutis cultivent la nostalgie, arborant croix gammée, chemise brune, chant nazi. Je raconte tout ça, c'est que souvent j'y pense. Car bien des innocents qui sont venus de France furent envoyés au massacre par d'excellents Français. Et ça, tu vois, je ne pourrai jamais, jamais.